1 Roi 19, les 19 premiers versets. 1 Roi 19, verset 1 jusqu'au début du verset 19. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael pour roi de Syrie. » Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée. Nous en sommes donc à l'examen de la 7e cause profonde de la dépression d'Élie. Nous l'avons intitulée « Une vision déséquilibré de Dieu ». Et en introduction à ce que nous allons partager, j'ai sélectionné deux illustrations, une citation d'ailleurs tout d'abord. Nous avons souvent évoqué Spurgeon, le prince des prédicateurs. Voici ce qu'il exprime au matin du 7 janvier 1855. Il est alors âgé de 20 ans. Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors, Plongez-vous en Dieu, comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi, plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Nous reviendrons à Spurgeon un peu plus tard. Maintenant, un personnage que nous connaissons tous indirectement, George Friedrich Händel, qui, à 9 ans, écrivait déjà de nombreuses cantates. Et quelques années plus tard, on lui demanda même de jouer devant le roi de Prusse. Et puis peu à peu, avec le temps, les événements dans sa vie prirent un tournant inattendu. Son père mourut. Sa musique ne se vendit plus et il finit par faire faillite, par entrer en banqueroute. Et c'est presque désespéré qu'il s'enferma dans sa chambre. Et en 24 jours, il écrivit son plus célèbre oratorio, le Messie. Et c'est pendant cette période qu'il fut si ravi par les Écritures qu'il s'exclama par la suite « Je voyais le ciel ouvert, le grand Dieu lui-même assis sur son trône. » Et ce sont les chapitres 7 et 19 de l'Apocalypse qui l'ont particulièrement touché. En entendant son Alléluia, on dirait qu'il en a pris le refrain dans le ciel même. Il mourut en 1759 et on l'enterra dans l'abbaye de Westminster. L'importance d'une juste vision de Dieu. Nous l'avons vu, Élie, héros de la seigneurie de Dieu. Héros de la sainteté de Dieu. Et même ce matin, voyez-vous, en me préparant pour ce temps, j'ai été moi-même tout à nouveau interpellé dans ce chapitre 19 par une expression qui revient deux fois. Elle figure au verset 10 sur les lèvres d'Élie en réponse à la question de Dieu, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Et quand, pour la seconde fois, Dieu lui pose la question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Verset 14, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle ne l'est pas simplement dans ses idées, elle l'est dans ses mots, bien entendu dans la mesure où ses mots figurent dans ce que nous appelons le texte original, parce qu'on a parfois bâti des messages complets sur des mots qui ne figurent pas dans le texte original et on est tombé complètement à côté, y compris d'ailleurs parfois même sur de la ponctuation problématique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas pour rien que nous avons à deux reprises sur les lèvres d'Élie ce titre de Dieu, le Dieu des armées. Il est le reflet de la vision qu'Élie a de Dieu. Mais en même temps, nous allons voir tout à l'heure que même là, la vision du Dieu des armées est devenue floue chez le prophète Élie. Mais cela, nous le verrons tout à l'heure vers la fin de notre exposé. Mais je m'arrête sur cette expression, le Dieu des armées, qui revient deux fois, pour une raison très simple. C'est que si vous lisez le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous ne trouverez jamais le titre « L'Éternel ou le Dieu des armées » pour la personne de Dieu. Si vous lisez les premiers livres historiques, y compris le premier livre des Rois, vous trouverez très très rarement cette expression « L'Éternel des armées » ou « Le Dieu des armées ». Par contre, plus Israël va s'installer dans l'apostasie, dans l'abandon de l'Éternel, dans la prostitution, plus Israël va se corrompre au contact de l'idolâtrie païenne, plus les prophètes vont parler de la part de l'Éternel des armées. Ainsi, dans le prophète Ésaïe, qui est quand même plus tardif que notre histoire ici, puisqu'il a prophétisé aussi durant 40 à 60 ans, disons à peu près entre 730, 720 et 680, vous voyez à peu près dans cette période, donc c'est plus tardif. Mais le prophète Ésaïe va utiliser cette expression « l'Éternel des armées » 61 fois dans les 54 premiers chapitres du prophète Ésaïe. 61 fois. Et c'est intéressant parce que nous parlons de d'Élie comme le héros de la sainteté de Dieu. Eh bien, dans Ésaïe au chapitre 6, nous avons cette vision impressionnante de la sainteté de Dieu qui va bouleverser le prophète lui-même. Dans les chapitres précédents, il va, donc Ésaïe va à plusieurs reprises évoquer les malheurs de Dieu sur tous ceux qui se corrompent d'une manière ou d'une autre. Si vous allez dans le chapitre 5, vous avez des malheurs partout, hein, les raisins de la colère de Dieu. Verset 8, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Verset 11, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Verset 18, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Et puis ensuite, une fois que le prophète Ésaïe a cette vision du Seigneur de gloire, c'est-à-dire du Fils de Dieu. Ésaïe 6, c'est une vision de la deuxième personne de la Trinité. C'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Nouveau Testament qui le dit. Dans Jean, au chapitre 12, si mes souvenirs sont exacts, dans Jean 12, si mes souvenirs sont exacts, on peut à la rigueur, oui, c'est Jean 12, 41. C'est une vision du Fils de Dieu dans toute sa gloire. C'est extraordinaire. Le Fils de Dieu dans toute sa gloire. Jean 12, 41. Voyez ? Eh bien, quand il a cette vision, qu'est-ce qu'il dit ? Au lieu de dire malheur à ceux, malheur, malheur à eux, il dit malheur à moi. Malheur à moi. Lui-même, alors, à ses jambes, en coton, n'est-ce pas, vit des sueurs terrifiantes, s'écroule dans son cœur comme frappé par la triple sainteté du Fils de Dieu dans sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous savez que, donc il s'agit là, hein, je l'ai dit, d'un superlatif absolu dans la pensée, dans la mentalité, dans la stylistique aussi, dans la manière de dire et d'écrire au sein du peuple juif, n'est-ce pas, le sommet des sommets. Et il est intéressant de constater que c'est le seul passage des Écritures où un attribut dans le domaine du caractère d'une personne soit porté ainsi, en quelque sorte à la puissance 3. C'est le seul passage des Écritures. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est dit Dieu est amour. Mais il est dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et il m'a fallu des années de confrontation avec les Écritures et de recherche de la pensée de Dieu dans sa présence pour enfin réaliser que, en réalité, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, c'est une manière de parler de l'essence de Dieu, de la nature de Dieu. Ce n'est pas seulement un attribut de Dieu, la sainteté. C'est l'essence même de notre Dieu, c'est la nature même de notre Dieu. Et nous pouvons dire, à la lumière des Écritures, nous n'allons pas faire l'étude maintenant, que l'amour de Dieu, en réalité, s'inscrit dans le programme de sa sainteté. L'amour de Dieu entre dans les chromosomes, pardon de le dire comme ça, mais on utilise un langage humain, n'est-ce pas, dans les chromosomes de la sainteté de Dieu. C'est parce que Dieu est saint que cette sainteté s'exprime dans l'amour. Et la sainteté de Dieu dans les Écritures, c'est un mariage parfait, merveilleusement harmonieux, entre sa justice absolue et sa sainteté absolue. Et Dieu n'est pas tiraillé entre les deux, n'est-ce pas? Je me souviens d'une époque où, quand j'enseignais les Écritures sur la personne de Dieu, je disais que, en fait, la croix, c'est le résultat d'une sorte de tiraillement terrifiant de Dieu partagé entre sa sainteté d'une part, qui exige que la dette du péché soit payée à quelque part, n'est-ce pas? Que le châtiment soit là, que la condamnation et le jugement interviennent, et puis de l'autre côté, l'amour de Dieu qui veut sauver. Et puis je me suis rendu compte là aussi que je me trompais. Il ne peut pas y avoir de tiraillement entre deux pôles du caractère de Dieu. Parce que ce serait une terrible preuve que Dieu est un peu comme nous. Dieu n'est pas tiraillé. Dieu n'est pas tiraillé. Il y a un mariage extraordinaire et merveilleux entre sa justice et son amour qui font partie de sa sainteté. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté de Dieu? À la base de la sainteté de Dieu se trouve l'idée de sa séparation absolue de tout ce qu'il a créé. Dieu est saint parce qu'il est totalement séparé de toute sa création. À l'origine, le mot kadosh, qui est rendu par saint en français, c'est un des mots, il y en a d'autres, mais c'est le mot principal, veut dire être séparé. Et vous savez, c'est quelque chose de très très important aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde qui, lorsqu'il est religieux, a une conception de Dieu totalement différente, puisque Dieu, dans le Nouvel Âge, dans toutes sortes de philosophies, dans les religions orientales, n'est pas séparé de sa création. Il y a une sorte de fusion d'ondes divines, n'est-ce pas, qui pénètrent toute la création. Dans ce qu'on appelle le panthéisme, Dieu est en tout, Dieu est partout, tout est Dieu, Dieu est tout. Et nous pourrions alors parler très longuement de toute cette conception complètement fausse qui parfois a pénétré dans l'Église de Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas toujours bien au clair sur la divinité. Nous sommes tellement anthropocentriques, centrés sur l'homme, que nous en connaissons beaucoup plus, mais beaucoup plus mal finalement, sur l'homme que sur Dieu. Voyez ? Dieu est séparé. Dieu ne se confond pas avec sa créature. C'est ce que la théologie appelle la transcendance de Dieu. Un fossé énorme entre Dieu et sa créature. Énorme. Dieu est aux antipodes. Dieu est tout autre. Totalement autre. Et puis il y a ce que la théologie appelle l'immanence de Dieu. Ce Dieu tout autre qui s'approche de l'homme, qui devient le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, je ne sais pas si on se rend compte, le Dieu de Jacob. Jacob, hein, comme diplôme en matière de tromperie, de calcul, hein, le Dieu de Jacob, le Dieu de Maurice Necker. C'est extraordinaire quand on voit les appellations de Dieu dans les Écritures. Ce Dieu qui s'approche, en Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas aller plus loin parce qu'on pourrait passer des heures, hein, sur ce thème, mais c'est dans ce cadre de d'Ésaïe 6, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. On le voit là, l'Éternel des armées. Le dominateur universel, le souverain aux pouvoirs illimités. Celui qui a la souveraineté et la puissance absolue sur les univers, sur ce que la Bible appelle le cosmos. L'ordre suprême de Dieu, cette immense horloge aux rouages infiniment complexes. Ça, c'est l'Éternel des armées. Dans le Nouveau Testament, le terme équivalent sera le Tout-Puissant, qui figure 9 fois dans le livre de l'Apocalypse, pour 10 fois seulement dans l'ensemble du Nouveau Testament. Et je dis que c'est l'équivalent tout simplement parce que nous avons une version grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la version des Septante, et dans cette version grecque des Septante, l'expression « l'Éternel des armées » est rendue par le mot grec qui figure 10 fois dans le Nouveau Testament. Le souverain aux pouvoirs illimités, la souveraineté absolue de Dieu. Et Ésaïe va être absolument bouleversé au point que le titre « Le Saint » pour parler de l'Éternel des armées va devenir son titre préféré, qui va figurer, je ne sais pas, je l'ai noté à quelque part, « Le Saint » 29 fois dans le prophète Ésaïe. Son langage va évoluer tellement il aura été bouleversé par cette vision fulgurante du Dieu totalement différent. Et puis il aura pourtant ses élans, on l'a dit, Ésaïe 40 et suivant, de l'immanence de Dieu, de ce Dieu qui s'approche d'Israël et qui ne veut pas délaisser plus que quelques instants cette épouse qui est tombée dans l'adultère. Il y a des choses merveilleuses. Donc, Élie est le héros du Dieu des armées. Hein, nous voyons donc maintenant d'autant mieux la vision d'Élie. Et puis nous avons dit que ce champion battu prend le chemin du Sinaï où il va avoir une grande surprise au Sinaï. Et cette grande surprise vient de l'attitude de Dieu vis-à-vis d'Élie. Comment Dieu va-t-il se conduire vis-à-vis d'Élie ? Première constatation, tellement importante pour le décourager, Dieu n'abandonne pas son enfant. Dieu n'abandonne pas son enfant. Élie est submergé par ce que nous appelons le syndrome de l'échec. Je ne suis pas meilleur que mes pères, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Et là, il faudrait refaire un temps de séjour ensemble, hein, pour voir ce que la Bible dit de l'échec. C'est intéressant. C'est intéressant. Et submergé par ce syndrome de l'échec, qui prouve une chose, c'est qu'Élie se connaît mal. Élie se connaît mal. Et en réalité, ça va être un des grands enseignements d'un roi 19, c'est qu'au travers de cette dépression, Élie va avoir une connaissance plus juste de sa propre personne. Et vous savez, finalement, connaître Dieu, se connaître soi-même est fondamental dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Prenez Moïse qui, à l'âge de 80 ans, est saisi par la vision du buisson ardent. Quand il est interpellé par l'Éternel, il va lui poser trois questions. Il va lui dire « Qui es-tu ?» Il va lui dire « Qui suis-je ?» Et il va lui dire « Qui est mon prochain ?» Indirectement, c'est ça. Il y a trois grandes questions. Et c'est sur la base de la réponse de Dieu à ces trois questions fondamentales que finalement, quasi contraint par l'appel de Dieu, il va se mettre en route pour devenir ce « médiateur » entre guillemets dans l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est Jean Calvin qui introduit son ouvrage majeur, l'institution chrétienne, par ses paroles, presque toute la totalité de notre sagesse et tout compte fait, la somme de toute sagesse véritable consiste en deux parties, connaître Dieu et nous connaître nous-mêmes. Et l'un dépend de l'autre. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes au travers de la connaissance de Dieu. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes au travers des situations difficiles que nous vivons. Manifestement, le prophète Élie se surévaluait. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Et vous savez que c'est notre problème avec lequel on se bat toute sa vie. Dès que ça va un peu mieux, on se tresse aussitôt une couronne de laurier. Ça nous colle à la peau. Et c'est la raison pour laquelle Dieu doit travailler à nous replacer si souvent dans des situations de faiblesse. Pour qu'il puisse véritablement se manifester dans nos vies. Donc Élie pourrait dire, Dieu s'est détourné de moi, il a pris ses distances, il me condamne. Vous pourrez lire le psaume 77, c'est aussi un psaume d'Asaph qui est fantastique. Nous n'allons pas le lire complètement, mais je vais vous en citer les versets 8 à 11. Encore une de ces radiographies du cœur d'Asaph. Psaume 77, versets 8 à 11. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Voyez les questions que se posaient notre ami le chanteur Asaph. Et il est question des pensées dans le texte. C'est très intéressant de voir la fluctuation des pensées dans le cœur d'Asaph. Par contre, vous avez ce psaume 103, versets 13 et 14. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le créent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Ah, merci Seigneur, de ce que tu te souviens. Et ce souvenir, dans la pensée de l'expression hébraïque, hein, le mot hébreu, ce souvenir signifie littéralement « garder en dépôt ». Je garde en dépôt. Je me souviens, je garde en dépôt. Comme si Dieu avait quelque part une immense bibliothèque et là, Maurice Decker égale poussière. Il garde en dépôt. Alors quand il ne se souvient plus, il cesse de garder en dépôt. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que cela veut dire dans le domaine du pardon, par exemple. Dieu ne se souvient plus. Il cesse de garder en dépôt. Et nous, quand on pardonne parfois, ben on a encore des preuves dans le tiroir. Dieu cesse de garder en dépôt. Et c'est actif, hein, Dieu ne se souvient plus. C'est plus fort que Dieu oublie. Parfois, il est dit que Dieu oublie. Mais il n'y a pas dans la Bible uniquement du oubli. Il y a Dieu ne se souvient plus. Parce que si je dis j'ai oublié, ben j'ai oublié, j'ai perdu, hein, ça nous arrive à tous. Mais ne plus se souvenir n'est pas une formule passive, c'est une formule active. Quand Dieu se souvient, il est actif. Quand il ne se souvient plus, il est actif aussi. Il décide de ne plus garder en dépôt. Et ça, quand nous le comprenons pour notre propre vie, nous pouvons être repris chaque fois que nous disons « c'est réglé » et qu'en réalité, nous avons encore des documents à ressortir au cas où on ne sait jamais, n'est-ce pas ? Dieu se souvient, Dieu ne se souvient plus. Hudson Taylor, nous avons souvent cité, disait souvent lorsqu'il revenait chez lui, « Mes amis, j'aimerais vous donner la devise de ma vie. » Elle se trouve dans Marc 11, 22, où nous lisons « Ayez foi en Dieu. » Et en fait, il allait plus loin. L'illustration ne le dit pas, mais le grec permet de traduire « Comptez sur la fidélité de Dieu. » C'est Marc 11, verset 22. « Comptez sur la fidélité de Dieu. » Et il expliquait alors que même lorsque nous avons des moments de faiblesse, le Seigneur nous soutient dans sa grâce. Et il concluait en disant « Comptez non seulement sur votre propre foi, mais aussi sur la fidélité de Dieu à votre égard. Toute ma vie, j'ai été inconstant. Je pouvais parfois avoir confiance, mais pas toujours. Lorsque j'étais incapable de croire, c'était pour moi un grand encouragement de me rendre compte que Dieu allait quand même être fidèle à mon égard. Dieu reste fidèle. » C'est Moody, ce revivaliste, qui était tellement percutant dans son message, qui écrit ceci dans toute la Bible, la vérité qui devrait nous être la plus chère, c'est celle de l'amour de Dieu. Satan essaie constamment de persuader les gens que le Seigneur ne les aime pas. Il a réussi à faire croire ce mensonge à nos premiers parents. Et il réussit aussi beaucoup trop souvent à nous faire croire la même chose. Nous commettons une grave erreur quand nous disons à nos enfants que le Père Céleste les aime pas quand ils font le mal, mais seulement quand ils font le bien. Une telle chose n'est pas enseignée dans la Bible. Parce que votre enfant est agité ou a commis une désobéissance, vous ne le chassez pas comme s'il n'était pas votre enfant. De même, quand les hommes se sont égarés, Dieu ne les méprise pas pour autant, c'est le péché qu'il a en horreur. Et c'est fou ce que nous projetons sur Dieu, l'inconstance de notre amour. Nous avons l'impression, quand nous faisons une bêtise, que Dieu cesse de nous aimer. Pourquoi ? Parce que peut-être dans notre éducation, nous avons entendu nos parents nous dire « si tu fais ça, je t'aimerai plus ». C'est quelque chose de très courant, n'est-ce pas ? Les fluctuations dans nos relations, dans notre éducation, dans l'éducation de nos enfants. Et au fond de nos cœurs, nous avons ces mêmes mécanismes vis-à-vis de Dieu, comme si Dieu allait fluctuer dans son amour pour nous. Alors qu'en réalité, son amour a une multitude de facettes, et comme j'aime le dire souvent, parfois, il passe de l'amour dans la douceur qui caresse à un amour qui frappe un peu plus fort et à un autre endroit. Mais c'est toujours son amour. C'est toujours son amour. Et c'est tellement important aussi, je dirais, par rapport à nos relations avec les autres. Dis-moi comment tu perçois Dieu et je te dirai quelle est ton attitude vis-à-vis de tes semblables. Qu'allons-nous dire à nos enfants s'ils font des choses graves? Est-ce que nous allons les jeter dehors avec dureté en disant « je ne veux plus te voir » ou est-ce que nous allons pouvoir leur communiquer le message de la constance de l'amour de Dieu reproduite dans nos vies? Quoi que tu fasses, mon enfant, je continuerai à t'aimer. Je te dirai ma désapprobation chaque fois que cela sera nécessaire. Et je sais ce qu'il peut m'en coûter de dire la désapprobation. Mais sache que mon cœur t'est toujours ouvert, que notre toit t'est toujours ouvert, parce que nous ne cesserons jamais de t'aimer. Ça, c'est d'une importance capitale. Que d'enfants se sont détournés définitivement de leur foyer parce qu'on leur a fermé la porte et qu'à l'heure où ils auraient eu envie de renouer le contact, la porte était fermée. Ah ben, ils ont noué le contact ailleurs. Et ça a été si souvent tellement grave, n'est-ce pas? Et il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Beaucoup de choses à dire. Dieu n'abandonne pas son enfant. Deuxièmement, Dieu ne condamne pas son enfant. Et il est vrai que Élie avait suffisamment de problèmes avec lui-même. Pourquoi vouloir condamner quelqu'un qui se condamne? Quelqu'un qui ploie sous le joug de la loi, qui est écrasé par le fardeau de l'échec. Et cela me rappelle ce que nous disions au début de notre tome réflexion, mercredi dernier. Cet homme de Dieu qui, sans doute, dans un moment difficile, a dit « L'Église est trop souvent le lieu dans lequel on achève les blessés. » Et quand je pense « On achève les blessés », quand je pense à certaines situations que nous avons récupérées avec la petite cuillère dans les entretiens personnels. Pendant, écoutez, je ne voudrais pas exagérer, mais au moins 10 ans, sinon plus, lorsque nous étions dans notre ministère en Bretagne, et puis au début de notre ministère à partir du centre de la France, presque chaque semaine, nous recevions un coup de téléphone d'un homme qui, à l'époque, avait entre 25 et 30 ans et qui avait été réduit en miettes par une équipe de croyants bien intentionnés qu'il avait complètement écrasé en voyant le diable partout chez lui. Mes amis, ce frère a mis entre 10 et 15 ans jusqu'à ce que le Seigneur, en quelque sorte, ait reconstruit une stabilité dans sa vie. Il est marié maintenant, heureux, toujours au Seigneur, etc. Mais nous passions chaque semaine, depuis la Suisse, hein, une demi-heure, une heure au téléphone. Où continuellement, il fallait le rassurer. Bien entendu, nous avions au départ examiné son passé, son éducation, comment étaient ses parents, etc. Et nous nous étions rendus compte que les drames qui se produisaient dans sa vie étaient indirectement le résultat de son éducation. Et il n'y avait pas de question diabolique ou que sais-je encore. Bien entendu qu'il y avait la part de la puissance des ténèbres, comme chaque fois que le péché se manifeste, mais il n'y avait pas de lien et de démons à chasser, que sais-je encore, mais que de drames. Quand on enfonce un peu plus quelqu'un qui souffre déjà, je pense à une des expériences les plus douloureuses que nous ayons vécues en Bretagne dans notre ministère. Nous avions une annexe à notre église, à 25 km de Paimpol, là dans les Côtes d'Armor actuelles, et au sous-sol de l'église, sous-sol, en fait l'église était au premier étage, donc en rez-de-chaussée, habitait un cher ami qui était membre de cette église, qui était aveugle. Très engagé, baptisé, il marchait avec le Seigneur, il rendait un si bon témoignage. Et nous avions de temps en temps des études bibliques avec d'autres personnes chez lui. Et je me souviendrai toute ma vie comment, à la fin d'une étude biblique, lorsque tout le monde avait quitté la pièce, ce cher frère, respirant une détresse incroyable, de me retenir pour me poser une simple question, mais angoissante pour lui. Dites-moi, est-ce que je suis aveugle parce que j'ai un démon? Mes amis, j'ai su qui lui avait dit cela. Mais cette personne ne sait pas le drame qu'elle a produit dans la vie de cet ami. Vous savez, dans la solitude liée à la cécité, il y a une hypersensibilité qui se développe. Cet homme, qui pour moi était un homme de Dieu, a été tellement marqué par cette accusation perfide de la puissance des ténèbres sortant des lèvres de quelqu'un qui était dans le service à plein temps en plus, qu'il est mort, je pense, quasi de chagrin, 2 ou 3 ans plus tard. Il s'est refermé sur lui-même. Et finalement, il n'a pas renié le Seigneur. Mais il s'est refermé comme une bête blessée qui part mourir dans les forêts. Vous voulez un autre exemple des aberrations auxquelles on arrive dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Et c'est quelqu'un en plus que je connais très bien, je me garderai de vous donner des éléments qui vous permettraient de distinguer de qui il s'agit, mais j'ai été à 2 années d'intervalle, 2 fois l'orateur d'une retraite annuelle d'été organisée par la mission évangélique Braille en Suisse, d'ailleurs c'est à Emmaüs que ça se fait, pour des aveugles et leurs accompagnants. C'est une expérience passionnante que de pouvoir partager le message du Seigneur avec 40 à 50 non-voyants, leur chien étant plus sage parfois que les croyants réunis dans un auditoire, et puis les accompagnants. Et je connaissais très bien le secrétaire général de cette mission évangélique Braille, qui est toujours en fonction actuellement. Et lorsque nous nous sommes revus ultérieurement, il m'a raconté ce qu'il avait vécu à l'occasion d'une soirée de détente organisée dans le cadre de ses retraites. Il y avait les études le matin, puis le soirée comme ici, de la musique et d'autres choses faites spécialement pour ses chers amis aveugles, dont quelques-uns ne connaissent pas encore le Seigneur quand ils arrivent, hein, n'est-ce pas? Ils avaient invité pour l'occasion un serviteur de Dieu qui avait, avant de se convertir à Jésus-Christ, animé des spectacles dans les cabarets et qui était très doué dans certains domaines du chant, etc., du mime, de manière à distraire ce soir-là ses amis aveugles. Et à cause du milieu dans lequel ce serviteur de Dieu travaillait, et je le connais personnellement, cet ami, en pleine réunion, s'est tourné vers ce vaste auditoire, ces dizaines de non-voyants, et leur a dit à peu près ceci: ce soir, vous pouvez sortir de ce lieu en ayant recouvré la vue. Parce que si vous êtes aveugle, c'est que... Et bien entendu, il y avait le péché et le diable derrière. Au point que mon ami a dû se lever, monter à l'estrade, demander à ce responsable d'église de s'asseoir, et il a dû donc essayer de réparer la gaffe terrifiante. Et je dis gaffe, c'est un euphémisme, qui venait d'être faite. Bon, ce sont 2 ou 3 illustrations, mais de cette facilité déconcertante avec laquelle nous pouvons devenir des décourageurs. Nous l'avons dit, pour Élie, nos frères peuvent être générateurs de découragement. Alors bien sûr, une fois de plus, le vrai problème est ailleurs. Mais ce n'est pas parce que le vrai problème est dans l'apitoiement sur soi que nous sommes autorisés à dire n'importe quoi au nom du Seigneur à ceux qui nous entourent. Nous avons là une drôle de responsabilité, n'est-ce pas? Alors ce que j'aime, c'est précisément que Dieu ne condamne pas son enfant. Il n'est pas d'accord, Dieu, avec Élie. Mais il ne le condamne pas. Parce qu'il sait que Élie ploie déjà sous le fardeau de son propre malaise. Et puis troisièmement, Dieu interroge et écoute Élie. Il interroge à deux reprises. Et moi, je suis toujours bouleversé quand Dieu interroge un homme dans la Bible. Oh, pendant longtemps, je passais là-dessus comme chat sur braise, jusqu'à ce que je réalise, éclairé par le Saint-Esprit, que c'était Dieu qui interroge et que la Bible nous dit que Dieu sait tout, qu'il sait déjà ce que je vais dire dans 5 minutes, puisqu'il vit en dehors du temps. Donc, il doit y avoir une autre raison que celle de l'information pour que Dieu interroge. Et il est intéressant de voir dans quelle situation Dieu est allé interroger. Par exemple, la tour de Babel se construit, et puis Dieu descend pour voir, et le texte dit, je vais descendre pour voir ce qui se passe. Mais est-ce que Dieu avait besoin de descendre pour voir ? Plus tard, avec Sodome et Gomorre, Dieu s'adresse à son ami Abraham, celui qu'il aime, celui qu'il a choisi, celui qu'il a connu, celui qu'il a aimé, dit Genèse 18. Et il lui dit, je suis descendu pour voir, pour entendre, parce qu'il y a une rumeur qui est montée jusqu'à moi. Et on peut multiplier les textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est un grand pédagogue. Et que tout d'abord, Dieu... Personne au moment du jugement dernier, ou je dirais même au tribunal de Christ pour nous disciples de Jésus-Christ, personne ne pourrait se tourner vers Dieu en disant « tu ne savais pas ». Mais il y a une autre raison d'ordre pédagogique, c'est que Dieu est un père. C'est un père qui nous enseigne comment nous devons réagir. Nous sommes appelés à être les imitateurs de notre Père, tout en puisant en lui la capacité d'imitation. Donc en bon pédagogue, Dieu fait pour que nous faisions aussi. Et ça, on le voit constamment dans les Écritures. Comme nous, dans l'éducation de nos enfants, nous faisons parfois des gestes qui peuvent apparaître bébêtes, mais parce que ces gestes ne sont pas bébêtes pour nos enfants. Parfois, nous faisons semblant de ne pas savoir. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la pédagogie. Tout simplement parce que nous avons besoin d'entendre nos enfants exprimer quelque chose. S'ils ne l'expriment pas, il va y avoir des problèmes. Mais Dieu, en bon père, fait exactement la même chose avec nous. Dieu va interroger et écouter Élie. C'est pour Élie qu'il le fait. Cela entre dans le processus de guérison du découragement. C'est ce que j'appelle simplement l'écoute de l'amour. Tu peux, Élie, tout me dire. Tu peux tout me dire. Aide précieuse pour le décourager. Es-tu lassé, rempli de tristesse, dis tout à Jésus. Il y a un magnifique cantique, trop peu chanté aujourd'hui, encore une fois. C'est intéressant. Dans la Bible, quand Jésus parle de l'écoute, fréquemment il associe au verbe écouter un autre verbe, le verbe comprendre. Écoutez et comprenez. Et comprendre, c'est un petit mot grec qui veut dire être sous-entendu, un avec. Celui qui comprend, c'est celui qui est un avec celui qui parle. C'est-à-dire qu'il s'identifie. Il se met dans la peau de l'autre. Un jeune guerrier nommé juge dans une tribu d'Amérindiens, de Peau-Rouge, comme on dit, va dans la forêt et il fait cette prière « Ô grand créateur des hommes, empêche-moi de juger un de mes semblables avant d'avoir marché 2 mois dans ses mocassins. » Il faut savoir enfiler les pompes des autres, comme nos enfants le font si bien quand ils sont petits, n'est-ce pas ? Apprendre à se mettre dans la peau de l'autre. Dans mon livre sur Barnabas, vous avez deux chapitres très développés sur cette question de l'écoute d'autrui. L'importance de l'écoute. Pas de l'écoute dans la mode actuelle. Parce qu'il existe une mode liée à certaines approches psychologiques, celle qui consiste à écouter mais sans jamais trancher. On dit il faut écouter parce que les gens ont besoin de s'exprimer. Mais surtout, surtout ne pas trancher. Et ça, c'est mauvais. C'est vrai que dans bien des situations, on sera appelé à dire à autrui, écoutez, je n'ai pas de solution immédiate pour votre problème. Et ce n'est pas un drame, c'est Dieu qui a les solutions. Dans certaines situations, nous aurons à intervenir courageusement, avec tact, mais aussi avec fermeté. Ce n'est pas simplement la mode de l'écoute pour que les autres disent de nous « Oh, ça c'est une personne qui sait écouter. » Ça fait bien, mais ce n'est pas suffisant. Notre écoute, ce sera soit ensuite une aide que nous apporterons, pratique dans certains domaines. Ça peut être un silence de compassion. Ça peut être une prière d'encouragement. Il y aura tant et tant de formes qui vont dépendre de notre intimité avec le Seigneur et de notre humilité, de notre dépendance de lui pour précisément être prêt à dire « Je ne sais pas pour le moment, mais je peux vous accompagner, je peux faire équipe avec vous, on peut prier ensemble. » Et rien ne vaut parfois, avec précaution bien sûr, une main posée sur une épaule, une accolade, un baiser affectueux, un regard compatissant, et ça fait parfois énormément de travail dans le cœur d'une personne. Beaucoup plus que de lui envoyer un tas de versets bibliques à la figure. Mais là, je ne veux pas allonger trop parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc Dieu n'abandonne pas son enfant, Dieu ne condamne pas son enfant, Dieu interroge et écoute Élie, et puis Dieu se révèle à Élie. Dieu se révèle à Élie. Et vous l'avez lu avec moi, non dans le vent fort et violent, dans ce vent destructeur, non dans le tremblement de terre, non dans le feu, moyen par lequel il s'est révélé maintes et maintes fois. Pensez à Job. Job, dans sa dépression, quand Dieu se révèle, même Élihu, le tout dernier qui vient à parler après les trois compagnons, il entend la tempête qui s'approche. Dieu vient dans la tempête. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas, que pour la situation de Job, il fallait que Dieu se révèle dans la tempête. Dans sa situation d'homme découragé, Élie n'avait pas besoin du murmure doux et léger. Lui avait besoin d'un Dieu qui se révèle dans la puissance de sa création. Et en effet, la fresque que Élie commence à développer et que l'Éternel va reprendre, c'est celle de la puissance extraordinaire de Dieu, du souverain du cosmos. Et la manière qu'a Dieu de dire à Job, « Écoute, est-ce que tu étais là quand j'ai fait ceci ? Peut-être que tu pourrais me donner un enseignement, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de toi, n'est-ce pas ?» Jusqu'à ce que finalement, sans avoir de réponse à ces questions, c'est intéressant, Job cesse d'interroger Dieu, il n'éprouve plus le besoin d'interroger Dieu, et il confesse « Jusque-là, j'avais entendu parler de toi. » Maintenant, mon œil te voit. Et ma vision de ce que tu m'as présenté de ta personne me suffit dans ma situation. Ma vision de ta personne me suffit dans ma situation. J'ai découvert, comme jamais dans ma vie, que tu es le Dieu parfaitement souverain. Il m'est tombé dessus des catastrophes injustes, Je ne les comprends pas. J'en ai eu tout mon sou. Je pourrais me révolter contre toi. Non, tu es le Dieu souverain. Ce que tu fais est bien fait. Je m'incline devant toi sans comprendre. Je sais qu'entre tes mains, ma vie est en sécurité. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le murmure doux et léger, le son doux et subtil, un doux et subtil murmure, le son subtil d'un silence, un son à peine perceptible. Ce sont toutes sortes de traductions de cette expression. L'amour paisible, sympathique, miséricordieux, compréhensif de Dieu. Le doux sourire de Dieu. Un baume pour le cœur découragé. Écoutez ce que... Non, on va le voir un peu plus tard. Je vais le mettre un peu plus tard. Je vois que je l'ai classé autrement. Donc, Élie avait besoin d'un rééquilibrage dans sa vision de Dieu. Dieu est aussi dans le murmure doux et léger. Et voyez-vous, je n'hésite pas à dire que le murmure doux et léger est aussi naïf. Il est aussi naïf, Élie, quand Dieu se manifeste pour lui dans le murmure doux et léger. Et à l'endroit où il est, caché dans le creux du rocher, un autre homme de Dieu s'est peut-être caché dans le creux du rocher, bien longtemps avant. C'est Moïse. Quand Moïse dit dans Exode 33, il faut que tu marches avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, comment est-ce que nous pourrions marcher? Nous ne pouvons pas, nous avons besoin de toi. Et puis, oh, s'il te plaît, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir la beauté de tes perfections, la beauté de ton caractère. Oh, fais-moi voir ta gloire. L'amoureux de Dieu. Et Dieu lui dit non. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais écoute, je vais... Oh.
Je m'en vais voir ta gloire, et après je rentre.
Oui. Voilà, et donc Dieu lui dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre, mais je vais te montrer ce que j'appelle la gloire de ma grâce. La gloire de ma grâce. Je vais te révéler ma bonté. Je vais te révéler ma bonté. Exode chapitre 34, mais déjà 33, versets 18 et suivants. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Chapitre 34, versets 5 à 7. Maintenant nous sommes là, dans la phase où Dieu se révèle. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'en mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Alors, disons-le tout de suite, cette question de la punition de l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, mais c'est une conséquence du péché des parents dans la vie des générations qui succèdent. N'allons pas inventer n'importe quoi en disant que gratuitement Dieu se plaît à affliger nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants parce que nous avons péché. Il est évident que mon péché dans certains domaines a des conséquences sur mon entourage. Si si je m'imbibe les poumons d'alcool et que ensuite nous mettons des enfants au monde, il est évident que nos enfants vont en supporter les conséquences. Ça, c'est le premier élément de réponse qui est très important. Il y en a un deuxième, c'est que ce qui est merveilleux, c'est que Christ intervient à ce niveau aussi. Dans certains cas, il atténue les effets de l'hérédité. Dans d'autres cas, il aide à vivre les conséquences du péché passé. Et il porte celui qui vit ces conséquences pour que ces conséquences soient même fructueuses, fécondes, qu'elles aident dans la croissance spirituelle, personnelle, n'est-ce pas? Il faut faire très attention avec ce texte, parce qu'alors on a énormément brodé inutilement, et là encore on a découragé bien des croyants, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce texte ne prouve qu'une chose, c'est que l'amour de Dieu est extraordinaire, hein, jusqu'à 1000 générations, c'est extraordinaire. Et vous avez deux fois dans ce verset, ces versets 6 et 7, ce petit mot « recette », ce petit mot qui indique l'amour constant, l'amour qui ne lâche pas, l'amour solitaire, l'amour loyal. Il est deux fois, l'Éternel se répète en quelque sorte, n'est-ce pas, pour parler de la solidité, de la solidarité de son amour. Il y a le petit mot « fidélité », riche en bonté et en fidélité, qu'on peut traduire par le mot « vérité », parce que c'est la même racine. Et suivant les versions, vous aurez « vérité » ou « fidélité ». Et récemment, dans un commentaire remarquable d'un juif non converti à Christ, sur ce texte, j'ai lu cette définition donc de ce mot « émet » en hébreu, qui a donné « Amen hein, », donc c'est de l'hébreu, mais prononcé par nous, français, un mot international. Ce mot implique solidité, stabilité, constance, identité à soi-même, ténacité dans les décisions. Celui qui a cette qualité est fortement réel, en même temps que parfaitement fidèle à toute promesse. Et ce commentateur juif, d'ajouter « fidélité » est une traduction fréquente de ce mot admirable. Les rabbis font remarquer qu'il est écrit par la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, la lettre médiane de l'alphabet hébreu même, et la dernière lettre, Tav, de l'alphabet hébraïque, embrassant ainsi la totalité de l'écriture. Le petit mot « fidélité » ou « vérité ». Savez-vous combien de fois cette phrase du verset 6, des versets 6 et 7 se retrouve dans l'Ancien Testament? Presque mot pour mot, une dizaine de fois. C'est une des expressions les plus fréquemment répétées sur la personne de Dieu, à travers l'Ancien Testament. Et faites cette étude personnelle, avec une concordance d'aller chercher les passages et de voir dans quel cadre cette émanation de la personne divine est répétée dans toutes sortes d'histoires. Et mes amis, souvenons-nous toujours d'une chose, c'est que c'est au Sinaï que Dieu a révélé la gloire de sa grâce. Que l'on ne nous dise pas toujours qu'il n'y a que la loi au Sinaï. C'est vrai que le plus impressionnant au Sinaï, c'est la loi. Mais ça ne veut pas dire que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont différents. Parce qu'au même endroit, c'est aussi une explosion de la grâce, de la fidélité, de la générosité, de l'amour parfait de notre Dieu. Dieu s'est dévoilé dans ce qui était supportable à l'homme, et encore, il l'a atténué par un geste de sa bonté en protégeant son serviteur. Parce que même la gloire de sa grâce était quelque chose d'insupportable. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Psaume 30, verset 6. J'ai sous les yeux cette petite illustration. Quelqu'un a écrit ceci: la vie chrétienne est comme le cadran d'une horloge. Les aiguilles sont les mains de Dieu qui passent et repassent sans cesse. La petite est la main de la discipline et la grande celle de la miséricorde. Lentement mais sûrement, la main de la discipline doit passer et Dieu parle à chaque coup. Mais la main de la miséricorde passe et repasse, déversant 12 fois plus de bénédictions pour chaque coup de discipline et d'épreuve. Les deux aiguilles sont attachées à un même pivot solide, le grand cœur immuable de notre Dieu d'amour. Écoutez cette parole de Spurgeon. Donc né en 1834, converti en décembre 1849 dans des circonstances tellement intéressantes, mais je ne vais pas vous le raconter. Et en 1850, donc l'année suivante, donc il est dans sa 16e année, vous voyez, il écrit à sa maman une lettre parce qu'elle est en train de passer par des moments de dépression. Les moments de ravissement, les heures saintes de communion, les jours bénis par le soleil de sa présence sont des gages de gloire sûres, certaines, infaillibles. Souviens-toi des œuvres de la Providence pendant cette année. Avec quelle clarté tu as vu sa main dans des choses que les autres appellent chance. Dieu, qui a mis le monde en marche, a utilisé les ressources de son vaste cœur et de sa pensée pour toi. Lui qui compte les cheveux de notre tête et nous protège comme la prunelle de ses yeux ne t'a pas oublié, mais il t'aime toujours d'un amour éternel. Les montagnes n'ont pas encore été ébranlées, les collines n'ont toujours pas chancelé. Jusqu'à ce que cela arrive, nous pouvons être sûrs de la sécurité de son peuple. Dieu se rappelle à Élie comme le Dieu de la grâce. Le Dieu Père, parce qu'Élie avait oublié cette dimension. Et puis Dieu parle à Élie en lui apportant un message destiné à conduire Élie dans un processus de guérison en profondeur. Et j'aime cette parole d'un médecin évangélique qui fait remarquer qu'aujourd'hui encore, comme au temps du prophète Élie découragé, Dieu préfère rencontrer l'homme dans le doux murmure d'une lente guérison opérée dans le calme plutôt que dans le vacarme de grandes manifestations. Qu'est-ce qu'il lui dit? Premièrement, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quitte ton découragement. Tourne-lui résolument le dos. Va. Acte de volonté, de confiance. Deuxièmement, je te fixe de nouveaux objectifs. Je te fixe un nouveau programme de travail. En quelque sorte, Dieu lui dit, sors de toi-même. Sors de toi-même. Et j'aime ici cette remarque de Martin Luther, qui a vécu des moments parfois très difficiles, des heures de sombre découragement. Il y a toutes sortes d'histoires qui courent. La manière dont son épouse est venue un jour toute vêtue de noir. Et il lui a dit, tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en deuil. Et lui, eh bien, à te regarder, on croirait que le Seigneur est mort. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Alors Luther a dit une fois, lorsque je suis assailli par des tribulations, je me précipite parmi mes cochons au lieu de rester tout seul. Le cœur de l'homme, s'il n'est pas occupé à quelque chose, donne accès au diable qui s'immisce en nous et apporte avec lui toute une armée de mauvaises pensées, de tentations et de tribulations qui nous oppriment. Donc allons nous occuper de nos cochons. C'est vrai. Vous savez que c'est au sommet de sa gloire et dans une heure de paresse que David est devenu adultère. De quoi nous faire réfléchir. Mais les instructions, il faut qu'on puisse prendre un court moment pour les instructions données par Dieu à Élie. Parce qu'elles sont surprenantes. Elles sont incroyables. Premièrement, aucun précédent roi d'Israël, du royaume du Nord, n'avait été oint par un prophète. Aucun. Deuxièmement, jamais un roi païen n'a été oint par un prophète de l'Éternel. C'est quand même bizarre que ce soit un prophète de l'Éternel qui soit appelé à oindre un roi païen. C'est une situation totalement exceptionnelle. Donc les ordres que Dieu donne sont ici des ordres totalement exceptionnel. C'est ce qui a fait dire à un commentateur britannique, Dieu fait régulièrement ce qui nous semble irrégulier. Ce qui n'entre pas dans nos équations. Et en fait, Dieu est le Dieu de l'exceptionnel. Dieu est en train de dire à Élie, tu sais, j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai pour toi des chemins surprenants. Tu n'es pas encore au bout de tes surprises avec moi. Ne m'enferme pas dans une petite boîte. Ne m'enferme pas dans tes petits schémas. Tu pensais peut-être que ça se ferait comme ça, à 1, 2, 3 points, conclusion. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est ce que Dieu nous dit. La situation n'est pas sous le contrôle de Jézabel. Elle est sous mon contrôle. Elle est sous mon contrôle. Jézabel ne peut pas remettre mon plan en question. Il s'accomplira. Tout est déjà prévu. Je tiens la situation bien en main. Voilà ce que Dieu dit à Élie. Et puis, c'est d'autant plus surprenant que les deux rois en question, Azaël et Jéhu, n'ont pas été des anges. Quand on sait qu'Azaël a obtenu le trône en assassinant son prédécesseur, et que Jéhu, de son côté, a fait la même chose avant d'exterminer la famille royale au grand complet. Exécuteur de la volonté de Dieu, certes, mais cela ne veut pas dire que Dieu a approuvé tout ce qu'il a fait. Parce que l'homme abuse, hélas. Babylone a abusé de son pouvoir, la Syrie a abusé de son pouvoir. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire, n'est-ce pas ? D'ailleurs, Dieu va déclarer au sujet de Jéhu, au prophète Osée, « J'interviendrai d'ici peu contre les descendants de Jéhu pour le crime commis à Jisraël. » Dieu est juste. Et puis, il nous est dit, concernant Jéhu, que durant son règne, ces deux rois 10-31, il n'obéit pas de tout son cœur à la loi du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il ne cessa pas de commettre les mêmes péchés que Jéroboam, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Ce n'étaient pas deux anges, les bons hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Élie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Élie, on verra, il n'aurait même pas le temps de le découvrir, ça. Mais nous ? Quelle que soit la conduite des rois, la manière dont ils prennent le pouvoir et gouvernent ensuite, Dieu est souverain et les contrôle totalement. Dieu contrôle Jézabel, Dieu contrôlera Azaël, Dieu contrôlera Jéhu. Il ne gouverne qu'avec l'autorisation divine. Ça, c'est un des grands messages de la Bible. Et c'est un des grands messages oubliés aujourd'hui. La souveraineté absolue de Dieu, qui ne se trompe pas, même quand un ayatollah Khomeini attend d'avoir à peu près 90 ans, je crois, pour mourir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est une consolation immense quand on voit comment le monde tourne. De savoir que Dieu est quand même en contrôle. Maintenant, dernière surprise, elle n'est pas des moindres, c'est qu'Élie n'a pas été l'artisan direct de cette double onction. Tu oindras. Or, Élie ne l'a pas fait. Si vous allez dans 2 Rois 8, 7 à 13 et 9, 1 à 6, et je veux avancer pour des questions d'enregistrement, eh bien vous verrez que c'est Élisée, le successeur, qui est intervenu, et l'un des fils des prophètes sur son ordre. En plus de cela, il a fallu une vingtaine d'années pour que ce plan s'accomplisse. Une vingtaine d'années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en plus, il n'y a pas eu d'onction littérale pour Azaël. Mais une sorte de désignation, un appel dans un but précis, où le terme onction pouvait avoir cette signification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Élie, change de regard sur tes échecs apparents. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Regarde plus loin que le bout de ton nez. Je ne suis pas prisonnier du temps et de l'espace. J'ai mon plan pour demain et après-demain. Et toi, tu n'es qu'un maillon dans une longue chaîne d'ouvriers. Ce que tes successeurs feront, ils le feront comme un prolongement de ton action. Tu seras présent dans leur activité. Et pour moi, dans le ministère, c'est quelque chose de très encourageant. De savoir que je ne suis pas le nombril du monde. Je suis un maillon dans une chaîne. Et que dans ce que, si le Seigneur ne revient pas très vite, dans ce que mes successeurs feront, ben en quelque sorte je serai engagé. Parce que je fais partie d'un programme d'ensemble dans la pensée de Dieu. Tout comme dans l'évangélisation. Je ne suis pas forcément le maillon du bout de la chaîne qui est témoin de quelqu'un qui dit oui à Jésus-Christ. C'est un moment toujours émouvant. Mais Dieu choisit les uns pour être au bout de la chaîne, les autres sont au milieu, les autres sont au début. Et au lieu de dire « mais je n'ai jamais vu personne se convertir à Jésus-Christ », pourquoi est-ce que nous ne dirions pas, pour ne pas être découragés, l'essentiel c'est que je sois un maillon dans la chaîne qui mène quelqu'un à Christ. Que je sois le premier ou le millième, peu importe, je fais partie du plan de Dieu. Et quand quelqu'un se convertira à Jésus-Christ, en quelque sorte, à quelque part, j'aurai participé. Ça c'est ce qu'Élie avait besoin d'entendre, parce qu'il pensait que tout dépendait de lui. Comprenez ? Et dans nos vies, nous sommes si tentés de penser que tout dépend de nous, comme si le monde allait s'écrouler parce que nous ne sommes plus là. Mais non, c'est l'Église et l'Église de Dieu. Le travail, c'est le travail de Dieu, c'est pas le nôtre. Hein, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, indispensables. Et puis Dieu va donc donner à Élie un successeur à former. Tu ne seras pas seul. Tu dis, je suis resté moi seul. C'est pas vrai. Puisqu'il y en a d'autres. Et il y en a même d'autres qui sont très courageux. Il y a les 7000 qui font pas beaucoup de bruit, mais il y en a d'autres qui sont très courageux. Parce qu'il y en a, hein, vous pourrez étudier cela dans le texte. Mais tu ne seras pas seul. Tu vas avoir un compagnon plus jeune, différent de toi, Élisée, mais totalement différent de toi, pour que tu comprennes que je me sers de personnes très différentes les unes des autres et de personnes complémentaires. Parce qu'Élisée, alors, c'est Dieu et salut. Il est un type de Christ assez extraordinaire par les quelques miracles que Dieu va opérer à travers lui et qui ressemblent à certains miracles du Seigneur Jésus. Quelle différence dans la personnalité des deux hommes ! Et souvent dans l'Église, on oppose les Élie et les Élisée. Et Dieu dit, mais non, ils sont faits pour travailler ensemble ou pour se succéder. C'est tout. Tout n'est pas négatif en Israël. 7000 hommes fidèles. Le mais positif de Dieu qui connaît les cœurs. Dans les temps les plus sombres de l'histoire d'Israël, Dieu s'est trouvé un reste fidèle. Marie, Joseph, Siméon, Anne, Élisabeth et Zacharie. L'apôtre Jean exilé à Patmos en temps de persécution. Une foule immense, est-il dit, que personne ne pouvait compter. Apocalypse 7, verset 9 à 12. Il y aurait tant de choses ici à développer. Je vous donne une dernière illustration. Pendant plusieurs années après sa conversion, Madame Hanover avait prié avec ferveur pour le salut de son mari. Puis un jour, il fut tué dans un accident d'automobile. Elle pensait que Dieu n'avait pas répondu à ses prières. Alors, elle fut déçue par Dieu et cessa de vivre pour lui. 5 années plus tard, elle rencontra un homme qui s'appelait Roger Sims, qui lui raconta une histoire étonnante. Le jour où M. Hanover avait été tué, il avait fait monter Roger dans sa voiture alors qu'il faisait de l'autostop. Quand Roger, qui était chrétien, lui parla de Christ, M. Hanover fut tellement convaincu de péché qu'il arrêta la voiture sur l'accotement, pleura et pria pour recevoir Jésus comme sauveur. En entendant cela, Madame Hanover pleura de joie et de douleur. De joie parce que son mari avait été sauvé et de douleur parce qu'elle avait cessé d'obéir à Dieu et avait cédé au découragement. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le secret des cœurs. Tant de choses nous dépassent. C'est Ésaïe qui l'a dit à un moment donné. Hein, le juste périt et nul n'y prend garde. Et on ne réalise pas que c'est parfois de devant le malheur que le juste est enlevé. Il m'est arrivé rarement, mais il m'est arrivé parfois de dire à des personnes éprouvées par un deuil très très douloureux, écoutez, peut-être qu'il est parti de devant le malheur. S'il était resté, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, mes amis, au roi Ézéchias, qui a eu 15 ans de vie en plus? Le seul, mes amis, dans les Écritures. Il n'y en a eu qu'un, un seul. Les 15 ans qu'il a eu en plus ont été 15 années qui ont gâché tout ce qui avait été fait avant. Il a eu Manassé. Roi de Juda. Et puis, à tout le reste. Il s'est humilié, il s'est enorgueilli, il a dû être humilié par Dieu, n'est-ce pas? Regardez toute la fin. Moi, je crois que les 15 ans qui ont été donnés par l'Éternel à Ézéchias ont été donnés une fois pour que nous ne faisions jamais la même prière qu'Ézéchias. Et vous savez que Manassé, il a fait scier vivant dans un tronc d'arbre le père, le conseiller spirituel de son père Ézéchias, le prophète Ésaïe. Rendez compte, d'après la tradition juive, il n'y a pas de raison d'en douter. Donc nous ne savons pas ce que demain réserverait si Dieu prolongeait une vie. Il sait mieux que nous, même là où je n'y comprends rien. Et la réponse d'Élie à l'Éternel, Élie partit de là. Élie partit. Il quitte son découragement, il obéit et il trouva Élisée. La parole de Dieu commence à s'accomplir parce que Dieu est fidèle, une fois de plus, à ses promesses. Il aura beaucoup appris dans son épreuve, il aura une vision plus équilibrée de Dieu et une meilleure connaissance de lui-même, en particulier de sa grande fragilité personnelle. Il a fallu qu'il passe par là pour prendre la mesure de sa fragilité et de son besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Alors je vous laisse cette pensée de Mark Twain. Ne tirons d'une expérience que sa juste leçon, sans aller au-delà. Sinon, nous serions comme le chat qui s'est assis une fois sur une cuisinière allumée. Il ne recommencera pas, il aura raison. Mais là où il a tort, c'est lorsqu'il n'ose plus remonter sur une cuisinière éteinte. Élie partit de là. Nous sommes allés un peu vite pour terminer, parce qu'il aurait été frustrant de ne pas aller aussi dans la petite boîte pour la suite. Mais vous pourrez reprendre tout cela et le creuser dans la Bible, vous-même, à partir des pistes que nous avons évoquées ensemble.